Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Agenda. Aujourd'hui, un invité très, très spécial. Le candidat à la chefferie, député de Jonquière, Sylvain Godreau, nous fait l'honneur de venir sur le balado. Bonjour, M. Godreau.
Oui, bonjour, Samuel. Bonjour, Jonathan. Bonjour à tous les auditeurs de l'Agenda.
Donc, course à la chefferie relancée depuis hier. Un petit peu de fébrilité, M. Godreau, ou bien c'est encore relax?
Non, beaucoup, beaucoup de fébrilité. Je dois vous dire que les derniers mois ont été très, très occupés comme député parce que vous n'avez pas idée, on pourra peut-être prendre du temps pour en reparler, là, mais vous n'avez pas idée des demandes de la charge de travail pour un député de circonscription dans un temps de crise. Là, c'était assez intense. Donc, avec la reprise de la course, oui, je suis fébrile, mais c'est une bonne fébrilité. Et je sens déjà là un engouement, de l'intérêt, des questions qui me sont posées. Donc, moi, je suis heureux d'embarquer là-dedans.
Vas-y, à ton tour, Jonathan. Écoute, je ne monopoliserai pas trop.
Non, mais aussi bien de rentrer dans le sujet tant qu'à faire. Moi, personnellement, nous, présentement, je devrais dire, on travaille sur un texte, en fait, dont vous avez répondu à quelques questions de certains de nos collègues il y a quelques semaines de cela.
Oui.
Et j'ai été très intéressé de lire vos réponses comme ceux de vos autres collègues. Et en fait, vous, plus précisément, votre rôle dans Jonquière, il se résume à quoi? Parce que j'imagine qu'il y a énormément de télétravail comme de fait.
Oui. Ah oui, tout à fait. Je dois vous dire que la réalité du travail de député est partagée, bon, en plusieurs éléments. Vous savez, on est législateurs, contrôleurs de l'action gouvernementale, mais aussi les intermédiaires de la population envers le gouvernement. Et dans ce volet d'intermédiaires de la population, ben il y a un gros côté travail social. Alors moi, j'ai une équipe très forte à ma circonscription et très loyale et très fidèle qui est avec moi depuis plusieurs années. Et quand les gens se retrouvent face à un mur, quand ils ont un problème avec l'administration publique où ils se qualifient pas dans un programme, ils se qualifient pas dans un autre, ils sont entre deux chaises, ils sont inquiets, ils ont toujours des situations particulières, ben en dernier recours, ils appellent le député. Alors, c'est là qu'on doit intervenir auprès de l'administration pour justement soutenir les citoyens. Donc, ça va de toutes sortes de soutien aux entreprises, soutien des jeunes, soutien des personnes qui ont plus de revenus, d'autres individus d'autres personnes qui ont des proches, par exemple, en fin de vie, puis veulent avoir accès, alors que les règlements de la santé interdisaient d'avoir accès à des soins palliatifs pour aller rencontrer des proches. Alors, il fallait intervenir pour ça, pour des raisons humanitaires. Donc, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement varié.
Et ce rôle-là, est-ce que, en fait, vous avez trouvé le juste équilibre entre la course à la chefferie et votre rôle de député, qui est quand même majeur? Est-ce que vous profitez du fait que vous êtes député dans cette course à la chefferie également?
C'est embêtant de le dire. En profiter, je pourrais pas dire ça. Mais c'est clair que pour moi, je me le cacherai pas, puis je ne vous le cacherai pas, je pense que c'est un avantage pour le Parti québécois d'avoir un chef qui, dès le lendemain de son élection comme chef, pourrait poser des questions à François Legault, serait à l'Assemblée nationale, ferait un travail de parlementaire et serait identifié par les Québécois et les Québécoises comme une alternative au gouvernement actuel. Et pour ça, moi, je ne néglige pas le fait que je suis à l'Assemblée nationale, bien sûr.
Effectivement, parce que ça vous permet notamment d'intervenir sur le fameux projet de loi 61 qui semble être votre... Je regarde ça aller, puis c'est très, très étrange. On dirait une espèce de retour en arrière, ce projet-là. Pourquoi contourner les lois environnementales pour relancer l'économie en 2020 quand on parle d'une crise climatique qui s'en vient? Puis en plus, pour vous, ça doit être très, très personnel parce que dans votre plateforme, vous dites le premier pays vert à rentrer à l'ONU. Et pour vous, ouais, l'environnement, c'est crucial dans votre campagne. Ça doit venir vous chercher quand même personnellement.
Oui, ça vient énormément me chercher. Moi, je suis évidemment favorable à ce qu'on relance l'économie rapidement pour nos régions, pour les travailleurs, les travailleuses qui ont perdu leur emploi durant la crise. Et je suis favorable à ce que l'État interviennent avec des infrastructures pour soutenir la relance de l'économie. Je suis favorable à ça. Mais je ne suis pas favorable à ce que ça se fasse au prix de recul au recul par rapport à des gains qu'on a depuis plusieurs années en matière de protection de l'environnement, en matière de protection des milieux humides, par exemple, en matière de réglementation environnementale sur les terrains contaminés, etc. Donc, ça m'inquiète beaucoup et je trouve qu'on a tendance à en mettre beaucoup aussi sur le dos de la bureaucratie pour dire ben il faut pousser la machine au max. L'autre élément, vous insistez beaucoup sur l'environnement, puis je suis entièrement d'accord, mais l'autre élément qui me préoccupe au plus haut point, c'est les risques de retour vers la collusion et la corruption en coupant les règles, en faisant les coins ronds. Et moi, ça a été aussi un cheval de bataille extrêmement important de ma vie politique, notamment quand j'ai été ministre des Transports et des Affaires municipales. Souvenez-vous, c'était pendant la commission Charbonneau en 2012, de 2012 à 2014, et j'étais responsable du ministère, le plus gros donneur d'ouvrage, qui était directement concerné par la commission Charbonneau, le ministère des Transports. Donc, cette dimension-là aussi, de suspendre des règles d'attribution de contrats, de surveillance des marchés, ça me préoccupe énormément.
Comme vous l'avez dit, vous avez été ministre des Transports. Moi, j'aimerais en savoir plus, si vous me permettez la question, sur un plan d'infrastructure, si vous n'avez un, du moins, un plan d'infrastructure à l'échelle québécoise, évidemment, sur les transports collectifs plus verts. Est-ce qu'un train léger rentre dans vos cordes également? Avez-vous des plans à nous proposer en tant que futur chef du Parti québécois et qui sait peut-être futur premier ministre du Québec?
C'est clair qu'il faut faire un virage très, très fort vers une mobilité durable, vers des infrastructures vertes et durables. Et je dirais c'est encore d'autant plus vrai pour la relance après la crise. Moi, j'ai eu l'occasion de proposer ce que j'ai appelé un plan Marshall de relance ou de reconstruction du Québec après la crise. Certains m'ont dit, Marshall, c'est peut-être pas le bon nom parce que M. Marshall, quand il a relancé l'économie européenne, c'était avec des prêts des États-Unis et ça a créé une forme de dépendance envers les États-Unis par après. Je veux dire, l'idée, c'est juste de faire référence à l'image, au vaste mouvement de reconstruction après la guerre. Alors, je m'assume avec le nom Marshall, je trouve que ça fait une image très forte, mais l'idée, c'est de faire des investissements massifs dans les infrastructures vertes comme les transports collectifs, un vaste chantier dans l'efficacité énergétique pour réduire notre consommation puis notre empreinte dans notre consommation énergétique parce qu'on a l'avantage d'avoir une très, très grande richesse en hydroélectricité et en énergie renouvelable au Québec. Mais le vice de cela, souvent dans des éléments sociaux ou politiques, il y a des vices et des vertus. La vertu, c'est d'avoir une grande ressource hydroélectrique renouvelable verte, mais le vice, c'est qu'on consomme beaucoup, puis on a l'impression que c'est gratuit, puis qu'on peut en abuser. Donc, on a beaucoup de gains à faire en termes de réduction de consommation énergétique. Et ça, il y a de l'argent à mettre là-dedans, il y a des emplois à créer, il y a de la richesse économique à créer. Donc ça fait partie de mon plan également. En termes d'infrastructure, c'est clair qu'il faut miser sur des infrastructures de transport collectif qui vont soutenir une transition entre, pas une transition, mais plutôt un transfert, pardon, entre l'auto-solo et le transport collectif. Donc, pour ça, ça prend des services de transport collectif qui sont fiables, qui sont efficaces, qui sont pas chers, pour que les gens voient l'avantage de faire le transfert de l'auto au transport collectif. Alors, pour ça, il y a beaucoup de travail à faire. Ça fait des années, par exemple, à Montréal, qu'on attend le prolongement de la ligne bleue. Moi-même, comme ministre, je l'ai annoncé, puis il n'est toujours pas fait. D'autant plus que le prolongement de la ligne bleue permet d'aller dans des secteurs plus démunis. On a beaucoup entendu parler du quartier Saint-Michel de Montréal-Nord, dans le contexte de la pandémie, où il y a eu des éclosions plus importantes. C'est reliée entre autres à la pauvreté de la population. Mais ça fera en sorte qu'on encouragera la mobilité dans ces secteurs-là. Évidemment, tous les projets de tramway, les projets de covoiturage, il faut absolument mobiliser la population vers ça. Et moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, dans cette relance verte, je renonce. Ben, je l'avais déjà annoncé, mais je pense qu'il faut que l'État québécois renonce au troisième lien.
Moi, j'ai une question avec tout ça, parce qu'on parle beaucoup d'encourager, mais il n'y a pas de coercion. Est-ce qu'on peut considérer les péages routiers comme une solution viable pour accélérer ce transfert-là?
Je pense qu'on doit l'envisager, pas partout. Sur certains axes, comme par exemple, il y en a déjà sur la 30, le pont de la 25. Le pont de la 25, c'est un cas de PPP. Mais moi, je pense qu'au Québec, c'est le Parti québécois qui a fait ça, on n'aurait pas dû renoncer au péage qui existait déjà. Parce que quand on enlève quelque chose, c'est plus dur de le ramener. Alors, il y a la formule des péages. Moi, je suis prêt à la regarder. Je suis prêt également à regarder les possibilités de bonus-malus pour faire en sorte que les gens puissent passer davantage aux autos électriques, à l'électrification des transports, mais quand même avec des modalités. Parce que moi, je reconnais, puis je viens d'une région, par exemple, où l'industrie forestière est très importante, qu'il y a des travailleurs qui ont nécessairement besoin de camionnettes pour aller faire leur emploi, aller travailler, c'est-à-dire dans le bois ou sur la construction. Alors, il ne faut pas que ces personnes-là soient pénalisées. Mais d'avoir une forme de redevance remise qui permet de soutenir l'électrification des transports, je pense qu'il va falloir regarder ça.
C'est intéressant ce que vous venez de dire. Effectivement, j'avais jamais fait le lien, mais vous comme moi, on vient, toi aussi Sam, de facto, on vient tous de régions où l'industrie du bois, elle est très importante.
Sam, tu viens de quelle région? Je ne sais même pas.
Abitibi. C'est pas mal nous autres les rois de ça. Là. Les mines du bois. Là,
les mines du bois, oui, c'est ça. Comme nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'aluminium et la forêt.
Ah, ben voilà.
L'Outaouais, c'est quoi? C'est les fonctionnaires qui vont attendre.
C'est-à-dire, l'Outaouais, en fait, le gros problème, c'est qu'il y a vraiment c'est deux régions en une. Je veux dire, il y a la région urbaine Ottawa-Gatineau et il y a tout le reste, littéralement.
Le Pontiac, les Basses-Laurentides, presque. Là.
Mais carrément. Puis, en fait, j'en fais la remarque parce que j'aimerais savoir dans à Jonquière, ou plutôt en large au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a un plan de relance pour la deuxième et troisième transformation du bois d'œuvre. Ouais. Parce que nous, en Outaouais, c'est mort et enterré depuis belle lurette. Ça,
les États-Unis nous aident pas là, avec le niaisage, là.
Non, en fait, c'est pas les États-Unis comme Donald Trump, là, parce que il y a beaucoup de variations dans les programmes ou dans les politiques américaines selon les présidents, mais effectivement, Donald Trump a une politique très protectionniste. Ça, c'est la grande question. Hein. Ça fait des années qu'on se questionne sur la deuxième et troisième transformation. Il s'en fait. Mais ça n'en fait pas suffisamment. L'enjeu est le suivant, c'est souvent la question des coûts de transport. Parce qu'on est très, très proche de la ressource primaire, mais la transformer, il faut l'envoyer, il faut l'expédier. Et la distance fait en sorte que ça fait augmenter les coûts. Alors ça, c'est toujours l'enjeu. C'est pour ça qu'il faut avoir des politiques spécifiques pour le développement des régions. L'autre élément où moi, je pousse beaucoup dans les régions, et notamment dans la mienne, pour amener une nouvelle vision, c'est justement de profiter des occasions, des opportunités offertes par la transition énergétique et l'économie verte. Et dans les ressources naturelles comme la forêt et comme la transformation hydroélectrique pour produire de l'aluminium, par exemple, dans ma région, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel pour faire un virage vers l'économie verte. Par exemple, dans l'industrie forestière, là où avant on produisait du papier, où on produisait, par exemple, des 2x4 mais surtout dans le papier qui va se faire de plus en plus, dont la consommation va diminuer de plus en plus. Mais là, il faut aller vers d'autres sous-produits du bois, comme la fibre cellulosique. La fibre cellulosique, c'est un produit qui vient de la forêt et qui permet de remplacer dans certaines composantes des produits chimiques ou des produits même, des sous-produits du pétrole qui peuvent rentrer dans la fabrication de cosmétiques, qui peuvent rentrer dans la fabrication de biens de consommation courante. Et Produits forestiers résolus a fait une annonce extrêmement intéressante au Saguenay, même dans ma circonscription, à l'usine de Kenogami. Écoute, c'était dans la préhistoire, là, donc avant le 12 mars 2020, autour de, je pense que c'était en janvier ou en décembre, je ne me souviens plus, mais la compagnie a investi avec l'aide des gouvernements autour de 30 millions pour commencer la production de fibres cellulosiques, créant ainsi autour de 23 emplois, ce qui est très intéressant. Alors, il faut poursuivre là-dedans. Vous allez me dire 23 emplois, c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais ça a un énorme potentiel de croissance parce que là, c'est une première machine. C'est un premier essai, il lance le marché. Mais si ça va bien, il faut que ça soit des régions comme les nôtres, comme l'Abitibi, l'Outaouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui occupent ce créneau-là pour devenir des experts, entre autres, dans la fabrication de fibres cellulosiques. Mais on pourrait parler aussi de la biomasse forestière, on pourrait parler de l'utilisation des copeaux pour faire tout plein de produits beaucoup plus verts et intéressants qui permettent de maintenir l'industrie forestière, mais de sortir des créneaux traditionnels.
Monsieur Gaudreau, on a un petit problème au niveau du timing. Il reste, en fait, là, je vous explique, c'est Zoom nous donne 40 minutes max aujourd'hui pour une raison quelconque.
Parce qu'hier, on avait droit à tout le temps qu'on voulait, mais là, on a droit à 40. Fait qu'on va refaire un autre meeting à la fin de celui-là. On va vous réenvoyer le lien.
Parfait.
Vous et Derek. Mais la prochaine fois qu'on vous en entrevue, Monsieur Gaudreau, parce qu'on va vous réinviter un jour, on espère que vous reviendrez. On va faire ça avec un autre logiciel en open source qui, lui, n'aura pas cette limitation-là. Là, c'est juste qu'on ne voulait pas tester quelque chose de nouveau pour une entreprise comme ça.
Donc,
mais je vais essayer de vous poser... Ben, on va utiliser nos 7 minutes qui restent. Je vais essayer de vous poser une question que je trouve qui ne prendra pas plus que 7 minutes. En fait, peut-être deux questions en une.
Ouais.
Vous, l'environnement comme dirigeant, c'est quelque chose d'important. Et donc, deux questions.
Ouais.
À l'intérieur, tant et aussi longtemps qu'on nous sommes à l'intérieur du Canada, est-ce que vous contesteriez la taxe carbone et la loi sur les évaluations environnementales que Justin Trudeau a mis en place, comme M. Legault fait en ce moment? Et deuxième question, dans un Québec indépendant, est-ce que le facteur environnemental serait primordial dans tout traité de libre-échange, c'est-à-dire l'inclusion de la bourse carbone, par exemple, des tarifs verts, protection de certains secteurs pour favoriser la compétitivité de nos entreprises qui ont des normes environnementales plus sévères?
Oui. Les deux réponses à tes questions, c'est oui. Donc, moi, c'est sûr que je contesterais très fortement et très de façon très engagée toute intrusion du fédéral dans les compétences en environnement du Québec. Moi, j'ai déposé deux fois, sous l'ancienne législature et cette législature-ci, un projet de loi affirmant que le Québec est le seul à avoir toutes les compétences en matière d'environnement. Alors, pour moi, ça m'apparaît fondamental. Je pense même que c'est une des raisons les plus fortes d'un point de vue contemporain, là, donc dans ces années-ci, pour faire l'indépendance du Québec, c'est d'avoir tous les pouvoirs en matière d'environnement. Alors, c'est clair que je le contesterai. C'est clair que pour moi, c'est un enjeu qui est au cœur de mon engagement politique. Et je veux même en faire un des tremplins pour remettre la question nationale à l'avant-plan. Dès mon retour à l'Assemblée nationale, une fois que je serai élu comme chef, on va présenter une motion demandant de rouvrir la Constitution pour clarifier cette question et que le Québec et l'ensemble des provinces, mais moi je travaille pour le Québec, on a toutes les compétences en matière d'environnement. Alors, si jamais le fédéral dit non, c'est ce que je pense qui va arriver malheureusement, mais on va l'essayer, si le fédéral dit non, ben ça sera une preuve éloquente que seule l'indépendance nous permettrait de prendre toutes nos décisions en matière d'environnement. Sur la deuxième question, qui est par rapport au libre-échange ou aux ententes internationales, c'est sûr qu'un Québec indépendant aurait le statut de pays pour être assis autour de la table et négocier les ententes de libre-échange, les ententes de commerce international, dans lesquelles je veux qu'on fasse ressortir les avantages d'un Québec vert, donc d'aller chercher les leviers pour qu'on puisse exporter, par exemple, notre hydroélectricité chez nos voisins immédiats, mais surtout exporter notre savoir-faire. Notre savoir-faire en matière d'ingénierie, par exemple, dans même la fabrication d'éoliennes, dans la fabrication d'énergie solaire, dans l'efficacité énergétique. Alors, il faut qu'on soit capable d'en faire un atout pour exporter notre savoir-faire, pour exporter notre énergie propre, mais surtout aussi pour attirer chez nous des investissements qui nous permettraient d'aller plus loin dans cette industrie-là.
Là, les questions étaient faciles, M. Godreau, quand même. On allait dans les domaines qui étaient plus faciles pour vous. Là.
Alors là, c'est la question qui tue, comme à tout le monde en parle. Là.
Ben, si on avait un jingle, peut-être. Là, mais
avec
on va
des,
juste...
des flashs.
Des flashs. Ouais. Mais bon, là, on va y aller avec deux topics. L'économie et ensuite l'immigration. Et on va commencer par l'économie pour vous réchauffer, parce que l'immigration est quand même un sujet assez brûlant. Et donc, c'est une question qu'on vous avait envoyée à l'avance pour que vous puissiez avoir le temps de vous préparer. On sait que le Québec affiche un retard chronique de productivité comparé aux autres pays de l'OCDE. Et ça fait des années qu'on en parle. Ça fait peut-être 20-25 ans qu'on en parle, la productivité ne suit pas, et ça peut être une raison pourquoi les salaires au Québec, la richesse au Québec est plus basse que par rapport au reste du Canada. Est-ce que vous avez un plan pour ça? Est-ce que vous pensez que les plans d'environnement peuvent apporter une solution?
Oui, moi, c'est mon principal plan. C'est très, très clair. Vous savez, il faut quand même faire une référence à l'histoire. Hein. Quand on parle de baisse de productivité, quand on parle de salaire, de fondement industriel différent au Québec, on a été longtemps un pays ou une nation productrice de ressources naturelles. On connaît tous les quartiers, les vieux quartiers industriels à Montréal où il y avait des filatures ou des entreprises de textile. Alors, on a été longtemps là-dedans au Québec. Alors, il faut absolument qu'on devienne des leaders de la nouvelle économie verte et de la transition énergétique. Donc, il faut absolument faire un virage à cet égard. Un virage à cet égard, ça veut dire de voir l'ensemble des règles fiscales. Nous sommes dans un modèle économique et étatique du 20e siècle, à l'époque où les énergies fossiles étaient encore la pierre d'angle, était encore le fondement de l'économie, alors que maintenant, et je pense que ça va être encore plus vrai après la crise de la COVID, les éléments où on crée le plus de richesses sont les énergies renouvelables, sont l'abandon des investissements dans les énergies fossiles, même des grandes institutions comme la Banque européenne d'investissement, le Fonds monétaire international, les grands fonds de placement comme BlackRock, qui, imaginez, gèrent des investissements ou des placements de 7 000 milliards de dollars US, là, je veux dire, ça devient hallucinant comme chiffre, ben, ils sortent des énergies fossiles. Alors, il y a vraiment une transition importante vers un nouveau type d'économie et les emplois qui sont créés. Et ça, c'est documenté à plusieurs endroits, plusieurs institutions. Les emplois qui sont créés dans l'économie verte sont créés plus rapidement que la croissance de l'ensemble des emplois. Ça veut dire que c'est un très, très bon signe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir la fiscalité. Pour soutenir les start-up ou les entreprises, les jeunes entreprises dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'économie verte, de la transformation, il faut permettre également à l'État de soutenir ces productions-là. Ça veut dire qu'il faut revoir les règles d'appel d'offres et d'approvisionnement de l'État. Mettre fin, par exemple, à la fameuse règle du plus bas soumissionnaire. Pas parce que c'est mauvais de moins bien payer, mais il faut considérer les intrants environnementaux et le coût environnemental dans l'ensemble des coûts assumés par l'État. Par exemple, l'hôpital de Jonquière doit s'approvisionner en lait pour sa cafétéria et ses patients, ben peut-être que le lait qui est produit à Montréal ou à Québec coûte moins cher. Mais il faut tenir compte de l'impact GES de le transporter jusqu'à Jonquière à travers le parc des Laurentides, alors qu'on a des producteurs de lait locaux qui sont à côté de l'hôpital de Jonquière et qui pourraient produire peut-être un petit peu plus cher, mais à long terme, les coûts sont beaucoup moins élevés. Alors, à cette...
On parlait de l'internalisation des coûts. C'est...
En environnement, exactement. Internalisation des coûts en environnement. Il faut également prévoir des modalités de soutien fiscaux, des crédits d'impôt, mettre en place comme des vitrines pour expérimenter des nouvelles technologies vertes. C'est vers ça qu'il faut aller. Également des liens très étroits avec les universités et les cégeps en matière de commercialisation des nouvelles technologies, des nouveaux produits qui sont créés en laboratoire, par exemple, dans les universités ou dans les cégeps. Alors, c'est clairement un virage vers... j'ai l'ambition que... Quand je dis que le Québec doit être le premier pays vert à faire son entrée à l'ONU, c'est que dès qu'on va arriver à l'ONU et faire notre adhésion à l'ONU, je veux qu'on ait déjà, qu'on soit déjà exemplaire, qu'on soit déjà exemplaire à l'échelle de la planète avec l'économie la plus tournée vers l'économie du 21e siècle. Et moi, j'ai l'ambition qu'on en soit les leaders mondiaux, donc qu'on trace la voie. Alors, pour ça, ben, ça prend du courage et de la cohérence. Alors moi, j'ai pris très clairement position, même s'il y a une bonne portion du projet qui est dans ma région, contre GNL Québec. Et je pense qu'on a un devoir de cohérence à cet égard.
Notre position, le Québec, sur le point de vue géographique également, c'est très intéressant. Et on a, je suis complètement d'accord avec vous, on a un pouvoir en Amérique du Nord. Au niveau de la transition, on peut forcer vers cette transition-là. Puis, en fait, ça va être intéressant de voir à quel point les États-Unis, surtout les États de l'Est, vont faire confiance, comme on l'a dit un peu plus tôt, exemple à l'hydroélectricité québécoise pour justement les approvisionner en électricité et également le reste du Canada. Donc, tout ça, c'est une belle grande dynamique qui doit clairement voir le jour plus que d'être de 5 projets sur papier. Ça, c'est certain.
Ah ouais, c'est clair. Puis il faut que l'État investisse là-dedans. Vous savez qu'il y a un projet qui s'appelle Elysis, qui est une co-entreprise entre Alcoa, Rio Tinto et Apple pour produire l'aluminium sans carbone. Alors ça, c'est une innovation incroyable parce que l'aluminium émet beaucoup de carbone, utilise beaucoup de produits qui émettent du carbone, quoique déjà au Québec, notre aluminium est plus vert parce qu'il est produit avec de l'hydroélectricité et non avec du gaz naturel, par exemple, ou du charbon. Donc, c'est vraiment un aluminium sans carbone. C'est une technologie qui a été inventée avec cette co-entreprise. Alors, moi, mon objectif, c'est que les investissements pour la production à grande échelle de cet aluminium sans carbone se fassent au Québec.
Non, c'est certain, on a l'avantage qu'on a déjà, l'infrastructure pour. On est déjà un des plus grands producteurs d'aluminium au monde. Puis il y a un plan en ce moment au gouvernement, si je ne me trompe pas, de doubler la production d'ici 2025.
Il faut toujours doubler. Le problème, c'est qu'on a, depuis à peu près 30 ans, augmenté de beaucoup la production, mais inversement, on a diminué les emplois. Donc, c'est vraiment deux courbes qui se croisent, augmentation de la production, diminution des emplois, parce que la technologie et les innovations font en sorte qu'on peut produire plus avec moins d'emplois. Alors, il faut qu'on poursuive dans l'augmentation de la production, mais avec des emplois de qualité dans une industrie de niche. Moi, je pense que la voie d'avenir pour le Québec dans le secteur de l'aluminium est clairement dans les produits de niche, parce que de plus en plus, les marchés internationaux vont chercher de l'aluminium le plus vert, qui vont rentrer dans la fabrication des autos pour que les autos aient le label vert. Même des F-150 plus légers, dont les pare-chocs seront faits d'un aluminium le plus vert au monde, ça va devenir un produit recherché. Les Tesla sont produits en bonne partie avec de l'aluminium qui vient de chez nous. Alors, il faut poursuivre dans cette optique-là pour qu'on devienne les producteurs dans des marchés de niche qui seront de plus en plus en demande.
Avez-vous aimé le travail du Bloc québécois à ce niveau-là, à la Chambre des communes? Est-ce que vous avez trouvé pertinent, de fond en comble, les initiatives de Yves-François Blanchet?
Oui, avec les deux députés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alexis Brunel-Duceppe et mon ami Mario Simard, qui partage le même territoire que moi, là, en bonne partie, comme député. Ils ont été très, très actifs pour protéger l'industrie de l'aluminium du Québec face à la nouvelle entente de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Alors, ça a permis, c'est pas l'idéal, mais au moins, on était capable d'aller chercher une lettre d'entente permettant de protéger la production d'aluminium du Québec davantage, mais ce n'est pas assez. Il va falloir qu'on continue d'aller plus loin dans ce sens-là.
Est-ce qu'on est prêt à aller vers les fameuses questions sur l'immigration qui
bien sûr, sont toujours plus... prêts.
Et donc, premièrement, on va permettre de mentionner M. Stéphane Enfield, spécialiste de la question, qui s'est rallié à vous dès le début de la campagne. Il sentait qu'il y avait un leadership de votre part de ce côté-là et il voulait travailler avec vous. Et vous avez sorti que vous vouliez une dépolitisation des seuils d'immigration.
Tout à fait.
Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous voulez dire par là et ensuite on verra. Il y a des critiques aussi qui disent que dépolitiser l'immigration, c'est un petit peu étrange, tu sais, la population ne devrait pas avoir le droit d'en débattre normalement. C'est quand même une question importante, l'immigration au Québec avec le français.
Ouais, je pense qu'il faut absolument faire la part des choses dans ce débat-là avec un grand sens des responsabilités, puis surtout avec une mesure dans les propos, parce que malheureusement, ça peut ouvrir la porte à des discours populistes que je dénonce, parce que on mélange tout ça dans un grand magma identitaire. Et moi, j'aime pas qu'on mélange les choses dans ce sens. Vous êtes vous avez tout à fait raison là de nommer l'appui de Stéphane Enfield, qui est un des avocats spécialisés, sinon l'avocat le plus reconnu là, en termes de droit de l'immigration au Québec, qui m'a donné son appui. Il est très, très actif dans ma campagne. Je pourrais aussi ajouter Mégane Perry-Mélenchon, la plus jeune députée de Gaspé, qui est porte-parole également en matière d'immigration et qui a choisi de m'appuyer. Maintenant, moi, je pense que c'est un enjeu extrêmement important, que ces points de vue sensibles, comme je le disais tout à l'heure. Et moi, je veux avoir comme gouvernement, éventuellement, un point de vue objectif sur les seuils d'immigration. Alors, c'est pour cela que je pense que la meilleure façon d'y arriver, c'est de confier à un observatoire indépendant. Il restera à déterminer lequel. Durant la campagne électorale, M. Lisée parlait du vérificateur général. Moi, je pense pas que ça soit nécessairement la meilleure institution. On pourrait créer un observatoire indépendant qui travaillerait avec l'Institut de la statistique du Québec et qui nous remettrait, et c'est là que la nuance avec le discours politique est important, parce que cet observatoire remettrait au gouvernement des scénarios. Il viendrait pas dire il faut tel seuil absolument, tu sais, ou telle quantité. Viendrait, admettons, nous remettre trois scénarios, A, B, C. Scénario A, tel seuil d'immigration, telle capacité d'accueil en fonction de l'emploi, en fonction de l'économie, en fonction des besoins du marché du travail. Même chose avec le seuil 2, mais demandant un peu plus d'investissement, admettons, et le troisième seuil, avec plus d'investissement ou plus de moyens ou de ressources. Alors, moi, après ça, avec ces trois scénarios, ben là, on peut faire le débat. Donc, ce n'est pas, quand on dit de dépolitiser, c'est de dépolitiser parce que j'ai des adversaires qui sortent des chiffres comme s'ils sortaient ça d'une surprise, d'une boîte de céréales. Puis un jour, c'est 50 000, le lendemain, c'est 25 000, le surlendemain, c'est 40 000. Puis là, ils se basent juste sur des comparables qui font leur affaire. Dans le temps de Lucien Bouchard, c'était tant. Oui, mais Lucien Bouchard était premier ministre il y a 20 ans. T'sais. Aux États-Unis, c'est tant. En France, c'est tant. Ben oui, ils prennent des chiffres qui font leur affaire. Mais on pourrait aussi aller chercher des comparables en Suède ou dans d'autres pays également à travers le monde. Donc, moi, je ne veux pas commencer à tomber dans la surenchère ou dans un débat trop facile sur des chiffres qui viennent de n'importe où. Moi, ce que je dis, c'est que nous devons avoir un observatoire avec des spécialistes, des experts, qui diraient, en fonction des besoins, voici les scénarios. Et là, le débat se ferait sur les deux ou trois scénarios que cet observatoire nous soumettrait. Deux autres, oui?
Dans cet observatoire-là, juste pour être clarifié, parce que, pas pour les nommer, mais M. Bastien et Plamondon disent notamment que faut protéger le français et que ça passe par une réduction d'immigration. Donc, j'imagine que cet observatoire-là, dans ces critères, il y aurait la protection de la langue française ou à tout le moins le maintien des seuils de population francophone actuels.
Parce que là, on s'en va vers la protection, plus que la protection, le développement de la langue française. Évidemment, c'est le critère premier. Alors, j'y arrivais. Dans ces scénarios, il faut qu'il y ait un énoncé sur les ressources nécessaires qu'on doit mettre pour la francisation et l'intégration. Alors, pour ça, moi, j'ajoute deux critères. En plus d'un observatoire, c'est nécessairement la régionalisation. Ça, ça fait des années qu'on parle de régionalisation d'immigration. Moi, je viens d'une région où on souhaite avoir plus d'immigrants. C'est sûr qu'il y a quelques semaines déjà, on était dans une pénurie de main-d'œuvre. Là, on est dans une pénurie d'emplois. Ça a changé en quelques semaines. Mais il faut absolument régionaliser l'immigration. Donc, pour ça, il y a différents modèles. Au lieu d'accoler le permis de travail temporaire à un employeur, il faut l'accorder, le permis de travail temporaire, à une région. Ça, c'est fédéral. Alors, il faut faire le travail là-dessus pour aller chercher ce permis de travail à coller, je dirais, ou appuyer sur une région plutôt que juste sur un travailleur. Ça, c'est la première chose. L'autre élément, et ça me permet même de faire une critique encore à l'égard des anciens gouvernements du Parti québécois, il faut ramener les COFI. Les COFI, c'est les centres d'orientation et de formation des immigrants, qui étaient déployés dans toutes les régions du Québec jusque dans le milieu des années 90, à peu près, ou fin des années 90. Donc, tout ça pour dire, c'est un gouvernement du Parti québécois, malheureusement, qui a aboli les COFI. Alors, moi, je veux ramener les COFI. On pourra leur donner un nouveau nom s'il faut, ou leur ramener le nom, ça, c'est un détail. Mais qui vise à établir partout à travers le Québec des centres d'orientation, de formation et de francisation des immigrants. Moi, je quand j'étais étudiant à Québec, je me souviens très bien d'avoir été dans un COFI pour commencer à apprendre des bases d'espagnol. Donc, les COFI faisaient, c'était comme des centres communautaires établis dans les différentes villes ou dans les différents quartiers et qui permettaient des échanges. Oui, d'abord dédiés à la francisation et à l'intégration des immigrants à ce qu'est le Québec d'aujourd'hui, mais aussi permettre à des gens, des Québécois d'origine comme moi, d'aller suivre des cours d'espagnol qui étaient donnés par des ressortissants espagnols qui vivaient au Québec et qui venaient nous enseigner les rudiments de la langue espagnole. Alors, c'était extrêmement intéressant et ça a donné des succès et ça permettait de créer des activités, de l'animation dans les milieux avec les communautés immigrantes. Alors, moi, je suis d'avis qu'il faut faire ça. Et l'autre élément, moi, je souhaite évidemment que le Québec ait tous les pouvoirs en matière d'immigration. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis un indépendantiste. Et je veux juste qu'on commence à réfléchir à la capacité du Québec d'accueillir à terme des réfugiés climatiques. Parce que, et là je fais un lien avec mes préoccupations en environnement, de plus en plus, il y aura malheureusement, ça a déjà commencé, il y aura malheureusement des réfugiés climatiques dus au rehaussement du niveau des mers, par exemple les pays insulaires. Les pays où il y aura des zones très, très arides de sécheresse vont faire en sorte qu'il y aura des populations qui vont se déplacer. Moi, ce que je sais, c'est que le Québec a toujours été une terre incroyablement accueillante. Incroyablement accueillante. Comme on a accueilli les Boat People dans les années 70 du Vietnam, moi, je sais que le Québec est extrêmement accueillant et capable d'accueillir encore des ressortissants de partout.
Monsieur Gaudreau, en guise de conclusion, j'aimerais en 5 minutes, si vous, que vous nous expliquiez en quelques étapes votre plan d'accession à l'indépendance du Québec une fois que vous serez premier ministre.
Ouais. Ben, écoutez, ce plan est extrêmement important parce que moi, je pars du point de vue que je suis conscient d'où nous sommes. Nous sommes présentement le quatrième parti, troisième parti d'opposition, et nous sommes 9 députés à l'Assemblée nationale. Dans les sondages, l'appui à l'indépendance varie entre 25 et 30. Alors, on a un très grand travail à faire pour reprendre le dessus du pavé et de ramener d'abord et avant tout l'indépendance dans le cœur, dans l'esprit, dans les convictions des Québécois. Donc, dès le lendemain de mon élection comme chef du Parti québécois, je lancerai très clairement une stratégie pour remettre la question nationale et de l'indépendance à l'avant-plan en utilisant les outils que nous avons comme parlementaires à l'Assemblée nationale. Donc, rapidement, comme je vous le disais tout à l'heure, je proposerai une motion à l'Assemblée nationale sur l'importance de récupérer tous nos pouvoirs en matière d'environnement en utilisant les propres termes du gouvernement Legault dans sa contestation, par exemple, de, de la loi sur la contestation des mesures du gouvernement fédéral sur le carbone, la bourse carbone. Et je permettrai ainsi à l'Assemblée nationale de se prononcer sur cet enjeu tout à fait fondamental de rouvrir la Constitution pour clarifier les enjeux, comme le permet le renvoi sur la Constitution, et faire en sorte que on pose directement cette question-là. Alors là, ça forcerait M. Legault à se positionner une fois pour toutes. Est-ce qu'il est prêt à aller au bout de sa logique, qu'il défend lui-même jusqu'en Cour suprême sur la question de l'environnement, et ainsi demander au gouvernement fédéral de rouvrir la Constitution pour accorder tous les pouvoirs en matière d'environnement au Québec? Si M. Legault dit oui, bon, ben, on aura créé un consensus au Québec. S'il dit non, ben, on l'aura démasqué. On l'aura démasqué et ça fera la démonstration hors de tout doute que la coalition Avenir Québec n'a qu'un nationalisme de façade. Parce que moi, je suis persuadé que dans ce groupe de la coalition Avenir Québec, il y a, oui, des indépendantistes qui ont mis ça sur pause, mais il y a des fédéralistes indécrottables. Et il faut absolument faire en sorte de pousser la coalition Avenir Québec et le gouvernement M. Legault dans ses derniers retranchements sur le plan nationaliste. Et moi, je veux me servir de la question de l'environnement pour ça. Et une fois qu'on aura essayé de démasquer Legault au bout de sa logique sur l'environnement, on le fera en d'autres matières. On le fera, par exemple, sur le rôle du lieutenant-gouverneur. On le fera sur la santé. On le fera en plein de matières qu'on peut, sur l'immigration, par exemple. Et parallèlement à ça, préparation impitoyable du référendum. Ça veut dire qu'il faut préparer le Québec à l'indépendance. Il faut mettre en place des comités de travail. Il faut mettre en place des séminaires. Il faut mettre en place des groupes qui vont préparer la transition. Et en même temps, travailler dans toutes les régions du Québec, aller à la rencontre des jeunes, parce qu'il faut qu'en 2022, le Parti québécois soit le premier choix chez les 18-35 ans. Et pour ça, il faut être capable d'articuler à quoi ressemblerait un Québec indépendant et le Québec comme premier pays vert à faire son entrée à l'ONU. Et mon engagement, si nous prenons le pouvoir en 2022, j'ai confiance, c'est de tenir un référendum dans ce premier mandat. Mais pour moi, je vous le dis tout de suite, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, je ne veux pas faire une campagne au leadership sur la date, l'heure du référendum. Je veux faire une campagne au leadership qui va faire ressortir la nécessaire préparation, les nécessaires arguments contemporains, actuels pour l'indépendance du Québec. Et là-dessus, je serai intraitable. Je ne commencerai pas à embarquer à un référendum dans les six prochains mois, dans les six premiers mois d'un gouvernement, dans les huit prochains mois, dans la troisième année, dans la deuxième année et demie. Je n'irai pas là-dedans. Mais c'est clair que nous aurons un référendum dans un premier mandat, mais il faut, pour ce faire, qu'on se mette les conditions pour le réussir. Les conditions pour se réussir. Ça ne viendra pas là, d'une feuille de chou, là, tout d'un coup, que les Québécois vont devenir indépendantistes. Il faut le travailler. Et pour ça, moi j'ai commencé à militer au Parti québécois avec Jacques Parizeau. Et Jacques Parizeau avait une stratégie chirurgicale pour préparer le référendum et le gagner. Il suffit de lire sa biographie pour le comprendre. Et c'est ce qui m'inspire. Alors, on ne peut pas juste, en criant indépendance, indépendance, penser que ça va arriver. Il faut qu'on pose des gestes. Alors, c'est pour ça que moi, je veux utiliser notre rôle à l'Assemblée nationale pour poser ces gestes-là et remobiliser autour de l'indépendance.
Eh bien, M. Gaudreau, un immense merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Écoutez, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié ce balado. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer notre page Facebook. N'hésitez pas à aller voir l'agenda.ca également. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.
Merci tout le monde.